Bonjour à tous et à toutes. Alors aujourd'hui, on poursuit ce qu'avait commencé Josué. Donc on est sur Ésaïe 2. Et pour reprendre un peu ce qu'avait partagé aussi la semaine dernière Renaud, qu'on avait survolé Ésaïe. Ésaïe, c'est salut et jugement. Donc j'ai repris parce que dans Ésaïe 2, on le retrouve aussi. On retrouve un découpage qui nous parle du salut, mais en même temps des jugements. Et on a beaucoup parlé de la souveraineté de Dieu ce matin, que Dieu est trop, que Dieu règne, que Dieu est souverain, que Dieu est au contrôle. Et on a aussi admis, face au monde dans lequel on vit, qu'il n'est pas toujours facile d'admettre que Dieu est au contrôle. Il n'est pas toujours facile d'avoir conscience que Dieu est au contrôle. Est-ce que nous sommes tous chrétiens, convaincus? On sait que Jésus-Christ est mort pour nous. Est-ce que nous sommes tous interpellés et convaincus du destin qui nous attend? Est-ce que nous sommes tous convaincus que Christ va revenir? Est-ce que nous l'avons tous dans le cœur? Et que nous soyons chrétiens ou pas, Dieu a un plan pour la terre, Dieu a un plan pour le monde. Et l'un pour l'autre, chrétien ou pas chrétien, le plan va s'accomplir. Bien sûr, il est différent, mais le plan va s'accomplir. Et c'est ça aussi, avoir cette conscience que le projet de Dieu, que le plan de Dieu arrive. Et ce matin, Ésaïe va nous rappeler que le jugement de Dieu nous amène à la repentance, nous pousse à la repentance. Et parfois, les jugements de Dieu sont nécessaires pour rétablir ou établir le plan de Dieu. Comme au chapitre 1. Au chapitre 1, Dieu condamnait Israël, mais leur dit, revenez, revenez, je vous condamne, je méprise vos cultes, mais il y a une chance, il y a un échappatoire, revenez. Et Dieu parle, et Dieu éclaire sur le besoin de rédemption de l'homme, et sans cela, ça amène à un jugement. Dans Ésaïe 2, donc, qu'on peut lire, donc ça prend un peu de temps, je suis d'accord, mais il faut s'imprégner du texte, donc on est quand même dans la lecture, on est quand même dans la lecture de la parole ce matin aussi. Donc je vais lire Ésaïe 2, prophétie d'Ésaïe, fils d'Amoth, sur Juda et Jérusalem. Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera au-dessus des collines, et que toutes les nations y afflueront. Des peuples s'y rendront en foule et diront: Venez, montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi, de Jérusalem la parole de l'Éternel. Il sera juge des nations, l'arbitre d'un grand nombre de peuples. De leurs glaives, ils forgeront des hoyaux, et de leurs lances, des serpes. Une nation ne tirera plus l'épée contre l'autre, et n'en apprendra plus la guerre. Maison de Jacob, venez et marchons à la lumière de l'Éternel. Car tu as abandonné ton peuple, la maison de Jacob, parce qu'ils sont pleins d'Orient, et a donné à la magie comme les Philistins, et parce qu'ils s'allient aux fils des étrangers. Le pays est rempli d'or et d'argent, et des trésors sans fin. Le pays est rempli de chevaux, il y a des chars sans nombre. Le pays est rempli d'idoles. Ils se prosternent devant l'ouvrage de leurs mains, devant ce qu'on leur doit en fabriquer. Les petits seront abattus, les grands seront abaissés, tu ne leur pardonneras point. Entre, entre dans les rochers, et cache-toi dans la poussière, pour éviter la terreur de l'Éternel et l'éclat de sa majesté. L'homme au regard hautain sera abaissé, et l'orgueilleux sera humilié. L'Éternel seul sera élevé ce jour-là. Car il y a un jour pour l'Éternel des armées, contre tout homme orgueilleux et hautain, contre quiconque s'élève afin qu'il soit abaissé. Contre tous les cèdres du Liban, hauts et élevés, contre tous les chênes de Bassan, contre toutes les hautes montagnes et contre toutes les collines élevées, contre toutes les hautes tours, contre toutes les murailles fortifiées, contre tous les navires de Tarsis et contre tout ce qui plaît à la vue. L'homme orgueilleux sera humilié et le hautain sera abaissé. L'Éternel Dieu sera le seul élevé ce jour-là. Toutes les idoles disparaîtront. On entrera dans les cavernes des rochers et dans les profondeurs de la poussière pour éviter la terreur de l'Éternel et l'éclat de sa majesté. Quand il se lèvera pour effrayer la terre, en ce jour, les hommes jetteront leurs idoles d'argent et leurs idoles d'or qui s'étaient faites pour les adorer, aux rats et aux chauves-souris. Ils entreront dans les fentes des rochers et dans le creux de ceux et dans le creux des pierres pour éviter la terreur de l'Éternel et l'éclat de sa majesté, quand il se lèvera pour effrayer la terre. Cessez de vous confier en l'homme dans les narines duquel il n'y a qu'un souffle, car de quelle valeur est-il? Voilà, 22 versets qui semblent au premier abord, j'allais dire, un peu décousu. Ésaïe aborde beaucoup de choses. Et lorsque je l'ai lu la première fois, j'avais du mal à saisir. Je fais, à mon avis, on a oublié, chapitre 2, 3. On a une impression qu'il y a plusieurs idées. Et finalement, il y a une vision. Ésaïe est un prophète. Et Ésaïe englobe des visions. Et les visions, c'est des... ça va toujours dans le péché, la rédemption, le jugement, la rédemption et le rétablissement. C'est des visions qui se font souvent dans ce sens-là. Et dans le verset 1 à 5, on a Dieu qui va promettre. Dans le verset 1 à 5, Ésaïe 2, verset 1 à 5, on commence par la lecture de ce que j'ai commencé. On a dans la suite des temps, on a des peuples qui se rendent en foule, on a l'Éternel qui règne, on a la maison du Dieu de Jacob, il nous enseigne les voies, on va marcher dans les sentiers, de Sion sortira la loi, on a Jérusalem, tout le monde connaît, et il y a marqué « Il sera juge des nations, l'arbitre d'un grand nombre », on n'apprend plus la guerre. Dans ce passage, Ésaïe nous décrit la plénitude du monde lorsque Christ règne à Jérusalem sur la montagne de Sion. Il nous décrit un avenir qui vient, un avenir qui est sûr, mais un avenir qui est difficile à saisir, parce que c'est quand Dieu l'aura décidé, il arrivera dans la suite des temps. C'est quelque chose de pas précis. C'est une promesse d'une paix mondiale, sans compromis, établie par Christ lui-même et non par des hommes. Quand on parle de la paix aujourd'hui, d'aussi loin qu'on se souvienne, même les plus anciens d'entre nous, même surtout les plus anciens d'entre nous, parler d'une nation qui ne fait plus la guerre à une autre, parler des armes qui disparaissent, ici dit des serpes, ils feront des haillots, et de leurs glaives, ils feront des lances, des serpes, ils feront des lances, et l'inverse plutôt, excusez-moi, des lances, ils feront des serpes. Donc on disparaît, c'est un monde qui est démilitarisé, désarmé, un monde idyllique, un monde qu'on ne peut pas comprendre. Les nations viendront à Jérusalem pour être enseignées, les nations viendront monteront à la montagne de Sion pour apprendre les voies de Dieu. C'est incroyable, aujourd'hui, on voit ce mépris qu'on a pour la parole de Dieu véritable. Et là, Ésaïe nous dit, un jour, il arrivera dans la suite des temps. C'est quelque chose qui va arriver. Et c'est un beau plan d'avenir pour ceux qui croient. C'est un destin incroyable auquel nous sommes amenés à participer aussi. Pourtant, quand nous voyons le monde d'aujourd'hui, c'est ce que je disais, on est désilluminé. Quelqu'un qui lit Ésaïe aujourd'hui, c'est un illuminé. Comment la guerre peut-elle disparaître? C'est la même chose que d'acheter une maison alors qu'on va changer de métier. C'est désilluminé. Mais parce que nous sommes, comme le peuple d'autrefois, séduits par le monde qui nous entoure. On est dans un monde qui a déjà été condamné, on l'a vu tout à l'heure lorsqu'on a partagé la scène. Ce monde, il nous condamnait, nous étions condamnés. Christ a pris la condamnation sur nous. Mais le monde qui refuse Christ est toujours condamné. Ce monde est condamné, ce monde va disparaître. Mais nous, nous sommes dedans. Et il est difficile des fois d'imaginer que le Seigneur nous appelle à autre chose. Et en regardant dans le monde dans lequel on vit, on n'aspire plus, ou on se laisse refroidir par le glorieux avenir qui nous attend. On se laisse rattraper par le monde. C'est un des pièges du diable. Lui, c'est le prince de ce monde déchu. Lui, il est déjà jugé. Il est déjà perdu. Donc il veut nous ralentir. Et pourtant, quand on prend ces versets en considération, quand on les lit, quand on s'en imprègne, on voit la beauté de la paix messianique, la beauté de ce que Christ va faire. C'est quelque chose qui est aussi réel que sa mort, que sa résurrection. C'est une préfiguration de ce qui va arriver après, de cette vie éternelle à laquelle nous sommes amenés à vivre. Et c'est pourquoi nous sommes alertés que Ésaïe commence comme ça pour nous décrire quelque chose qui nous donne envie. On a envie de le vivre. On a envie de connaître ce monde où il n'y a pas de guerre. On a envie de voir cet arbitre qui juge les nations, cet arbitre qui dit au peuple, il n'y a plus de guerre, de voir cette paix qui s'installe finalement. Et c'est pourquoi Ésaïe commence par là, et ça recoupe ce que disait aussi Paul aux Philippiens. Dans Philippiens 3, versets 7 à 8, Paul qui avait plein de choses de la vie du monde, mais quand Christ l'a trouvé, il va dire, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Sauveur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je le regarde comme de la boue afin de gagner Jésus-Christ. Voilà, c'est dans le même ordre d'idées. Ésaïe nous dit, voilà le monde que vous devez attendre, voilà le monde que vous devez, auquel vous devez aspirer. Mais est-ce que le règne de Christ, est-ce que le règne de Christ, c'est quelque chose auquel je pense, ou c'est quelque chose auquel je désire vivre, ou est-ce que je suis dans un monde qui me plaît quand même? Est-ce que le règne de Christ peut venir aujourd'hui, tel que le monde il est? Nous avons vu la semaine dernière que le salut est impossible sans jugement. Et c'est pourquoi après, Ésaïe va partir sur deux jugements. Il va juger d'abord son peuple, et après il va juger le monde. Il va commencer au verset 6, 6 à 9, Dieu va juger son peuple. Car tu as abandonné ton peuple, la maison de Jacob, parce qu'ils sont pleins de l'Orient et abandonnés à la magie des Philistins. Le pays est rempli d'idoles, au verset 8. Ils se prosternent devant l'ouvrage de leurs mains, devant ce que l'on doit en fabriquer. Les petits seront abattus et les grands seront abaissés. Tu ne leur pardonneras point. Ce Dieu qui est présenté, c'est le Dieu qui va juger. Dieu va juger justement le peuple. Le peuple qui est pécheur, le peuple qui va se pervertir. On a vu déjà avec Josué cette apparence de culte, mais le cœur qui fait défaut. Et Renaud aussi nous parlait de toutes ces alliances qu'ils font sans se soucier de Dieu, de toutes les décisions qu'ils prennent en mettant Dieu dehors. C'était un peuple pieux de façade, rendant un culte qui était désagréable et plein de fausseté. Ésaïe déjà annonce le plan de Dieu. L'avenir, il arrivera dans la suite des temps. C'est quelque chose d'acté. Ce qu'on a lu au début, c'est vrai, mais c'est en adéquation avec ce qu'on lit maintenant. C'est pourquoi le peuple est dans le péché de l'idolâtrie. On le voit bien. Ils sont en train des idoles partout, dans tout le pays. Ésaïe annonce que le plan glorieux de Dieu, que l'avenir qui est préparé, ça passe par un jugement du peuple parce qu'ils se sont compromis et ils ont oublié la mission qui était la leur. La mission qui était la leur lorsque Dieu a choisi Abraham, quand Dieu a choisi Jacob, c'était pour faire connaître sa parole au monde, pour qu'Israël soit dépositaire de quelque chose de la gloire de Dieu. Et au travers la vie qu'ils vivaient, ils avaient oublié cette gloire. Et combien l'Église lui ressemble. Cette Église qui parfois se laisse corrompre, se laisse rattraper. Malheureusement, quand on lit Ésaïe, on peut être sévère avec le peuple en disant « Oui, avec tout ce qu'ils ont vécu, il y avait Moïse, ils ont vu plein de choses. Oh là là, moi, si j'étais eux, si j'avais été à leur place. » Mais finalement, quand on regarde notre vie, ou la vie de l'Église en général, et de toutes les églises, on voit la compromission qu'on fait souvent avec la Bible et les Jésus qu'on a créés pour rentrer dans un monde, pour l'adapter. On va se créer des Jésus, on va créer de nouvelles dénominations. Je pense malheureusement aujourd'hui, à l'heure actuelle, en préparant ce message, j'ai vu des déformations telles que il y a des docteurs, c'est aux États-Unis et en Angleterre, Roy Clemens et le docteur Ralph Blair, qui ont formé des conseils chrétiens qui admettent l'homosexualité, bibliquement. Et ils poussent j'ai lu pour les recherches, ils ont écrit des livres et ils dédouanent l'homosexualité, dans le sens que c'est nous qui devenons des intolérants, parce que la grâce et l'amour de Dieu est tolérante. Et ces gens-là se sont laissés égarer, tout comme le peuple avec des idoles de pierre, nous, on va se créer des idoles par rapport à nos croyances. Et nous sommes alors, ces églises-là, tous ces chrétiens qui se disent chrétiens, qui se présentent chrétiens et homosexuels, sont persuadés d'être dans un bon plan, sont persuadés de ne pas être en dehors de ce que Dieu leur veut. Pourtant, ces chrétiens sont en dehors du plan que Dieu a pour eux. Et du coup, ils chutent. Comme Israël chute, comme l'Église a chuté, comme parfois nous-mêmes nous chutons. Et dans l'Église, la première place, elle est toujours à Christ. Christ seul, c'est dans le cœur du chrétien, et parfois c'est difficile. Et pourtant, si ce n'est pas le cas, c'est de l'idolâtrie. Tout ce qui prend la place, c'est l'idolâtrie. Le jugement, et on en a parlé la semaine dernière, le jugement qui nous était réservé est tombé sur Christ. Ne minimisons pas la croix et son œuvre au risque de nous éloigner du rôle du chrétien. Annoncer un autre chemin, une autre vérité pour plaire au monde, c'est faillir du plan que Dieu a pour nous. Et c'est pour ça que le peuple a failli. Il a imité les nations. Josué leur avait dit, Moïse leur avait dit, tu n'imiteras pas, n'imite pas les nations autour de toi. N'imite pas. Et pourtant, il a imité. Et pourtant, c'est riche, on a vu. Hein. Il y a de l'or, il y a des chevaux, il y a des chars. Il y a plein de choses en Israël. Ils réussissent, c'est pas, ils ne sont pas dans la misère. Et pourtant, ils se détournent de Dieu. Il faut vivre une vie à contre-courant. Et c'est ce qu'on avait rappelé au travers des écrits de Jacques et de Pierre l'année dernière. Vivre à contre-courant. La rédemption se trouve dans le jugement de Dieu sur Christ. Parce que Christ a payé pour nous, nous sommes sauvés. Et nous pouvons nous aussi être parfois éprouvés, jugés, pas vraiment jugés, mais à travers des épreuves, jugés à un instant T où on s'est égaré, pour revenir pleinement à Dieu. Dans 1 Pierre 4, verset 17-18, « Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu ? Et si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur ?» On a besoin parfois d'être repris par Dieu. Et Dieu commence toujours par son peuple. Toujours par l'Église. Toujours. Quand on est parent et que des enfants font des bêtises, le premier qu'on va disputer, c'est souvent le nôtre. Parce que c'est notre fils. On va en prendre soin, on va le corriger. On va dire, fais pas ça. Et puis si jamais on est obligé de corriger ou de reprendre les autres, ça va être jamais de la même manière. Parce qu'on est moins attaché. On n'a pas cette autorité. Dieu, il juge son peuple et il juge son Église parce qu'on lui appartient. On a été choisi en Jésus-Christ. Donc oui, il va prendre soin de nous. Des fois, plus on va le prendre moins bien que le monde qui a l'air de bien se comporter, mais c'est une réalité. Et ce que Dieu veut, si nous voulons voir là cet avenir, c'est qu'on aspire à son plan et que nous restons fidèles et persévérants dans la foi. Et Dieu juge le monde. Vous avez vu, hein, dans la petite image, je ne sais pas si on la voit bien, on voit un chat qui se regarde et il voit un lion. Mais ça ne se voit pas bien. C'est l'orgueil. Quand nous nous voyons, quand nous nous regardons, on est déformé de ce que nous sommes. Et dans Ésaïe 2, versets 11 à 20, c'est ce que va dénoncer le prophète. L'homme au regard hautain sera abaissé et l'orgueilleux sera humilié. L'Éternel seul sera élevé ce jour-là. Et ça revient plusieurs fois. Contre quiconque s'élève afin qu'il soit abaissé. Tout ce qui est haut, tout ce qui est beau, tout ce qui fait la fierté sera abaissé. Car Dieu, une fois qu'il a jugé son peuple, il l'étend au monde entier, c'est ce que nous avons vu aussi la semaine dernière, un jugement global. Parce que le monde a rejeté Dieu, il a rejeté son nom, ce si beau nom que nous avons chanté, il a rejeté son œuvre, la croix, et il a rejeté son règne, qui pourtant son règne vient. Le premier péché, c'est l'orgueil, et c'est encore le dernier, parce que tout découle de l'orgueil. L'orgueil, c'est se rebeller contre notre Créateur. C'est écouter cette petite voix qui dit « Dieu a-t-il réellement dit ?» Dieu a-t-il réellement dit ? Est-ce que c'est sûr ? Parce qu'on peut discuter de la Bible souvent. Au psaume 14, au chef des chants de David, « L'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. » Ils se sont corrompus, ils ont commis des actions abominables, il n'en a aucun qui fasse le bien. L'Éternel du haut des cieux regarde les fils de l'homme, pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis, il n'en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Tous ceux qui commettent l'iniquité ont-ils perdu l'essence ? Ils dévorent mon peuple, ils le prennent pour nourriture, ils n'invoquent point l'Éternel. C'est alors qu'ils trembleront d'épouvante quand Dieu paraîtra au milieu de la race juste, jeter l'opprobre sur l'espérance du malheureux. L'Éternel est son refuge. Oh, qui fera partir de Sion la délivrance d'Israël. Quand l'Éternel ramènera les captifs de son peuple, Jacob sera dans l'allégresse et Israël se réjouira. Outre les promesses qu'on voit à la fin, le psalmiste décrit la même chose. C'est les insensés qui vivent sans Dieu. Ils sont tous égarés, tous pervertis. Pas un seul ne fait le bien. Le monde est donc insensé. Il oublie que Dieu est Dieu. Et il va subir le jugement divin qui vient. Il en a déjà des conséquences aujourd'hui. Le salut à la croix est bafoué et cela ne peut rester sans conséquences. Aujourd'hui, la croix témoigne de la justice et du jugement de Dieu pour le salut des hommes. Pourtant, ceux-ci préfèrent vivre dans un monde et se mettent à la merci du prince de ce monde qui est Satan. Ésaïe va citer ici quelques nations, le Liban, Tarsis. C'était des nations orgueilleuses pour des raisons purement humaines. La richesse, la puissance militaire ou économique. Ils avaient la beauté des pays, ils avaient plein de choses et ils se remplissent d'orgueil. Ils étaient élevés. Dieu dénonce et juge tout ce qui est apparence, valeur mondaine, rien de tout ceci ne peut vous sauver et ne vous sauvera. Dieu rend l'homme sans secours et par sa puissance le fait chuter de son piédestal. Il le ramène à son état de créature. Et les hommes tremblent, les hommes sont détruits, ils détruisent tout ce qui leur appartient. Au verset 20, il dit « En ce jour, les hommes jetteront leurs idoles d'argent et d'or qu'ils s'étaient faites pour les adorer. » Il y a une reconnaissance quelque part que rien, absolument rien, peut sauver. Et au contraire, on a honte de ce qu'on avait fait lorsque l'Éternel paraîtra. Et c'est comme Adam et Ève qui se sont cachés après la chute. Ils se sont cachés quand Dieu a dit « Où es-tu, Adam ?» Ils sont cachés, ils ont honte. Parce qu'on prend conscience de la place que nous avons face à un Dieu tel qu'il est. La Bible nous dit donc que ce monde est réservé au jugement et que rien de ce monde, que ce soit matériel ou autre, ne peut sauver. Mais lorsque Dieu jugera le monde, est-ce que les hommes reconnaîtront qu'il est le Créateur ? Les hommes reconnaîtront que c'est lui qui a sauvé. On l'a dit, les nations afflueront. Mais pourquoi pas le reconnaître maintenant ? Dans 2 Pierre 3, versets 5 à 7, il veut l'ignorer en effet que les cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau, et que par ces choses le monde d'alors périt submergé par l'eau. Tandis que par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Pierre exhorte aussi les chrétiens des premiers temps que le monde dans lequel ils vivent, c'est un monde qui est déjà condamné, c'est un monde qui est déjà réservé pour la destruction, c'est un monde qui est corrompu. Il y aura une partie qui va être rétablie, mais ça va disparaître. C'est quelque chose qui nous amène à ne pas nous y attacher, ou en tout cas à ne pas y mettre la première place. Ésaïe, dans ce chapitre 2, il nous fait part que l'avenir du monde, c'est la destruction. Il nous interpelle que quand les jugements viendront, c'est pour rétablir un règne qui est déjà aussi arrêté. La parole de Dieu nous pousse à réfléchir ce sur quoi nous voulons bâtir et construire notre vie et notre espérance. Et malgré tout, on a dans Ésaïe 10, Ésaïe 19 et Ésaïe 21, on a ces versets qui nous montrent que Dieu va juger, mais Dieu protège aussi. Il va plusieurs fois dans la parole, il nous est dit « Entre dans les rochers et cache-toi dans la poussière pour éviter la terreur de l'Éternel et l'éclat de sa majesté. » Mais au verset 21, « Ils entreront dans les fentes des rochers et dans le creux des pierres pour éviter la terreur de l'Éternel et l'éclat de sa majesté. » Quand il se lèvera pour effrayer la terre. Donc Dieu met à part, Dieu protège malgré le jugement, Dieu protège au travers les rochers. Il y aurait beaucoup à dire sur le rocher, sur la protection, ce n'est pas le but ce matin. Mais il est dit, ça m'a rappelé en lisant ça, c'est ces gens qui fuient le jugement en hâte, très rapidement, et qui n'ont plus rien. Ça me fait penser à la parole de Paul dans 1 Corinthiens 3, versets 12 à 15. « Or si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or et de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle le révélera dans le feu. Et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense pour lui, il sera sauvé, mais comme à travers le feu. » Ça rappelle aussi la parole de Pierre quand il dit « Si le juste se sauve avec peine, qu'en sera de l'impie et du pécheur ?» Le salut en Jésus-Christ, nous ne pouvons pas le perdre parce qu'il ne dépend pas de nous. Mais malheureusement, nous pouvons oublier d'entrer dans le plan de Dieu. Nous pouvons faire du salut en Jésus-Christ peu de cas et rester dans une vie en stand-by. Alors nous sommes sauvés, mais au dernier moment, cache-toi. Nous ne sommes pas sauvés Nous sommes sauvés parce que le salut ne dépend pas de nous, mais nous n'avons pas mis en action cette espérance et cette foi qu'il y avait en nous. On est sauvés de justesse, comme par le feu. Nous sommes éloignés aussi. Nous avons pu nous éloigner, nous avons pu être lassés, nous avons pu attendre et attendre sans avoir de résultat. Soyons alors attentifs et exhortons-nous pour ne pas tomber dans une lassitude ou dans un service qui n'est pas le nôtre. Ou dans un service où Dieu ne serait plus le centre. Et nous nous mettons à bâtir quelque chose avec du foin et du feu, du foin et du bois qui ne résisteront pas au feu. Et nous n'entrerons pas complètement dans le rôle que Dieu nous avait donné. Comme Israël n'est pas rentré dans le rôle qu'il avait donné. Qu'il a fallu Jésus-Christ. Et comme l'Église, malheureusement, si on fait l'histoire de l'Église en général, n'est pas entrée dans le rôle dans lequel Dieu lui avait donné. Mais par la gloire de Dieu, le jugement qui vient ne tombera pas totalement sur tout le monde. Certains entreront dans des rochers parce qu'ils suivent Christ malgré des fois des difficultés. Et pour conclure, en qui places-tu ta confiance? C'est le verset 22. Le verset 22 est une conclusion de Dieu lui-même, parce que c'est Dieu qui dicte à Isaïe quoi écrire. Cessez de vous confier en l'homme, dans les narines duquel il n'y a qu'un souffle, car de quelle valeur est-il? C'est vraiment cette exhortation qu'il donne. Il va décrire plein de choses, mais finalement c'est ça le point à retenir. Le point à retenir, c'est une question à dire à l'envers. Parce que finalement, quand on est chrétien, on doit placer notre confiance, et on nous l'a rappelé là avec les petits témoignages, en Dieu seul. Et combien c'est dur. Combien moi je veux construire moi-même mon avenir. Combien moi je veux faire des choses par moi-même, avec ma propre force. Combien moi je me vois plus important que je peux l'être. Je ne dis pas qu'il faut rien faire et rester assis et dire « Dieu, tu fais tout ». Mais il faut admettre que Dieu doit passer à la première place. Et dans Ézéchiel, le passage qui a été aussi partagé, il est roi, Ézéchias. Il est pourtant roi, c'est lui qui prend toutes les décisions. Et la première chose qu'il va faire, c'est aller se mettre devant le roi des rois. Il va aller se placer devant le trône. Il va admettre qu'il y a quelqu'un qui lui est supérieur et quelqu'un qui prend les meilleures décisions que lui. Et ça, c'est un exemple qu'on devrait suivre et comme beaucoup de gens aussi ont suivi. C'est le cri du prophète finalement au peuple. Il leur dit, cessez de croire en l'homme. C'est le cri du prophète qui vient jusqu'à nous aujourd'hui. Cessez de vous confier en l'homme. Et l'homme, c'est aussi nous. Cesse de te confier en toi, cesse de te confier en ton patron, en ton compte en banque, en ton banquier, en peu importe en quoi tu te confies, cesse de le faire. C'était un peuple infidèle qui faisait des alliances sans consulter Dieu, on l'a vu, qui préférait avoir ses dieux, qui préférait avoir ses idoles. Et aujourd'hui, en quoi plaçons-nous notre confiance? Qui est l'objet de nos délices? Vers qui nous tournons-nous en premier lorsque nous nous levons le matin? Vers qui vont nos louanges? Vers qui va notre adoration? À qui donnons-nous un temps libre, un soutien financier? Pour qui agissons-nous tous les jours? Si nous ne nous confions pas totalement en Dieu, il y a alors cet ordre que le prophète va donner à Judas, qui nous donne aussi à nous, cessez de vous confier en l'homme. C'est l'ordre que l'Éternel va donner, cessez donc. Sommes-nous prêts à suivre et à vivre le destin qui nous attend? C'était aussi le rappel qu'il y avait dans Évangile 21, c'est cette année, le destin qui nous attend, un glorieux destin qui nous attend dans lequel on ne prend pas toujours part ou qu'on n'imagine pas. Sommes-nous prêts à prendre à cœur notre rôle de chrétien suiveur de Jésus-Christ sans dévier du rôle que le Seigneur a pour nous? Alors cessons de nous confier dans l'homme et dans le monde. Ce monde est condamné même si on ne le croit pas, même si on regarde autour de nous. Les gens ont l'impression qu'il va durer et durer. Ils tirent des alertes pour 200 ans, 400 ans, ou dans je ne sais pas combien d'années. Ce monde arrive à sa fin, ce monde arrive, se périt, et est gardé pour les flammes. Et sommes-nous prêts alors? Sommes-nous prêts à espérer quelque chose qui vient? Voilà le cri que laissait Isaïe, voilà ce que je vous laisse aussi ce matin. Et je finirai par Hébreux 10, 36. Vous avez besoin de persévérance pour accomplir la volonté de Dieu et obtenir ainsi ce que vous est promis. Ce qui nous est promis, c'est le futur qui arrive. Ce qui nous est promis, c'est en Jésus-Christ. Ayons alors la persévérance pour accomplir la volonté de Dieu seul. C'est un moment à penser à ça et à le méditer dans la semaine.